Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un chaud devant Festival International du film Insolite à Rennes-le-Château avec Le Loup de Tancarville. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Bonjour Sacha.
Bonjour Vanessa.
Le Festival International du film insolite de Rennes-le-Château, il y avait de nombreux courts-métrages dont on a eu cette chance de pouvoir participer, voir tous ces films, et être plongé, discuter avec des gens du métier. Et franchement, à chaque fois, c'est toujours un plaisir. Et cette année, c'était encore plus parce que je faisais partie du jury des courts-métrages. Et c'est assez intense. Donc maintenant, quand je parlerai avec des membres du jury, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs au Festival de fiction de La Rochelle, c'est que je comprends le problème pour eux de choisir, d'arriver à être d'accord ensemble, quoique... Nous, on était assez d'accord, même s'il y a des divergences de temps en temps, mais on était assez d'accord. On a la chance de découvrir de nombreux courts-métrages, dont un qui était assez, assez insolite, assez fou, assez fort, avec bien ses nuances en noir et blanc, j'ai nommé Le Loup de Tancarville. Au moment de prendre sa retraite, un homme intransigeant, surnommé Le Loup, est frappé par une toux irrépressible. Alors que sa vie tourne au cauchemar, un guérisseur lui annonce qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre, à moins qu'il ne se rende au pont de Tancarville. C'est assez mystérieux quand même, hein. On est plongé dans quelque chose de complètement différent. Je le disais avec ce noir et blanc assez fou, assez fort. On ne sait pas vraiment à quelle époque on se trouve, on ne sait pas, on sait par contre qu'il y a des personnages assez impressionnants, dont Laurent Bateau, qui interprète Henri Dewars, qui est le loup, Pierre Biel, qui joue Jérôme Biffaut, Jonas Dinal, qui joue Didier, l'inspecteur, Alia Nadouane, qui joue Kung Fu Princesse. Je peux vous dire, ça dépote avec Kung Fu Princesse. Tania Karsbaski, qui joue Caroline Dewars. Sylvain Jouret, qui joue le rebouteux. Célène Assaf, qui joue la pneumologue. Catherine Solignac-Lecomte, qui joue la mère d'Henri. Salomé Talou-Boulma, qui joue Charline Dewars. André Thi, qui joue le médecin. Et oui, c'est vrai, c'est cet homme qui a réussi professionnellement, qui est voilà, un loup, qui garde vraiment les choses en place, et bah, il part à la retraite, et tout d'un coup, c'est tout qui apparaît. C'est tout qui va lui gâcher la vie. Cet homme qui est pris entre deux femmes, sa mère et sa femme, son épouse. On sent vraiment qu'il a pas la main mise sur beaucoup de choses, qu'il est peut-être le roi au travail, mais c'est pas pareil à la maison, d'autant plus que ce n'est pas deux femmes, c'est trois femmes, parce que j'ai oublié sa fille. Et sa fille, qui veut reprendre les rênes de la société, n'en faire qu'à sa tête et ne pas suivre les conseils de son père. Et donc là, il tombe sur un homme rebouteux qui lui dit, parce que il paraît que c'est une légende, que c'est quelque chose qui existe, comme quoi, si on va sur le pont de Tancarville, eh bien, il peut y avoir des miracles qui peuvent se passer niveau santé. Alors, personne n'a pu le dire, hein. Et puis, cette histoire, en fait, que nous raconte le réalisateur et scénariste François-Régis Jeanne, eh bien, c'est tiré d'une histoire vraie de quelqu'un qu'il a rencontré, d'un voisin à qui ça s'est passé. Et donc, il a eu cette envie de faire un court-métrage avec une productrice, donc Anne Gourdon, ainsi que Nicolas Duval-Adeschowski. Bien, ils sont entourés à l'image par Sébastien Biguet, Raphaël Dallard-Porta, au montage par Florent Vassaud, à la musique qui est assez importante dans le court-métrage de Dan Dianeski. Et pour parler de ce court-métrage, j'ai eu la chance au Festival international du film insolite de Rennes-le-Château d'avoir à mon micro non seulement le réalisateur et scénariste François Régis Jeanne, mais aussi la productrice Anne Gourdon. Bonjour François Régis.
Bonjour.
Bonjour Anne.
Bonjour.
On est au Festival international du film insolite où vous venez présenter en court-métrage, en compétition officielle, Le Loup de Tancarville. Mais d'où vient cette idée de court-métrage? Est-ce que c'est touché par l'histoire vraie de cet homme?
C'est deux choses. C'est une envie de faire un film un peu de genre, un film un peu étrange, un film un peu bizarre. J'avais vu, j'étais très impressionné, comme beaucoup de gens, je pense, par Parasite, Bonjour.
Oui,
et il avait dit qu'en faisant ce film-là, en fait, il avait voulu faire du bizarre. Et d'un coup, donc, moi, j'avais plein de projets de. Donc, après Demi-sœur, j'avais plein de projets de fiction, de long métrage. Et puis, beaucoup de frustration parce que beaucoup de projets, bah, ça se faisait pas comme j'aurais voulu. Et donc, une envie de faire un film qui soit étrange, un peu bizarre, étrangement inquiétant. Et puis, d'un coup, comme nous l'a dit Raphaël Thierry hier soir à la projection, finalement, le sujet s'est présenté en se baissant. C'est-à-dire, c'est un voisin en Normandie avec qui j'ai beaucoup sympathisé, qui me raconte cette histoire-là. Lui, il est adorable, mais il est très en contrôle, beaucoup défini par son métier. Et cette histoire de passage à la retraite, donc de rite initiatique. J'ai vu plein de thèmes qui m'intéressaient dans quelque chose qui était réaliste. Et voilà, j'ai fait un mélange de tout ça. Et j'ai fait ça en noir et blanc, c'est un peu du western.
Ouais, c'est vrai, hein, c'est un peu dans cette sauce, surtout la musique emmène sur ce côté-là, quand il est en voiture, on a vraiment l'impression qu'il se retrouve devant ces personnes qui s'occupent des péages, si je ne me trompe pas, qui jouent un jeu, et en fait, chacun, avec le regard, on croit vraiment être dans un western, quoi. En plus, en noir et blanc, on sent ce frisson et cette tension entre les personnages, surtout envers la fille qui se dit « oulala, il est louche, il fait des allers-retours, cette voiture avec son Harley Davidson, là, ça n'a pas du tout, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi il fait autant d'allers-retours ?»
Ça, c'était un peu du polar, presque des films d'exploitation des années 70, où on s'inquiète parce qu'il y a quelqu'un qui est passé avec un peu des lunettes noires en voiture. Et puis la partie sur le loup, parce qu'on vit l'histoire donc, du loup qui est son voisin, en fait, hein, l'histoire vraie de son voisin, sur une légende du pont de Tancarville qui est une légende du coin, on l'a appris plus tard. Ça, je voulais un peu être dans sa tête, être comme dans un Melville, c'est-à-dire que tout soit froid. Lui, il n'arrêtait pas de me dire, il vient de la grande distribution, que c'était un peu bouffé ou être bouffé. Un peu ça qu'il a transmis à son fils aussi, qui joue dans le cours, mais qui joue pas sa fille, puisque c'est sa fille dans le cours. Et je voulais que cette façon de voir le monde, qui change de lunettes à travers cette histoire-là. Le fameux rite de passage, et c'est ça que j'essayais de faire en mise en scène aussi, c'était une envie de mise en scène.
Cet acteur incroyable qu'on voit beaucoup en second rôle, et là vous le mettez vraiment en haut de l'affiche, c'est Laurent Bateau.
Ouais.
Qui est vraiment. Qui a une. Alors, on peut le dire, qui a une gueule, qui passe pas inaperçue et que beaucoup utilisent en tant que truand, en tant que personne un peu machiavélique,
un peu traître,
qui traître, qui cache quelque chose, controverse. Ouais. Et là, on se pose des questions, mais en même temps, on est touché par son histoire. En fait, vous le rendez attendrissant, ce qu'il n'a jamais été dans un film. Et je trouve ça très beau.
Ouais, c'est un excellent acteur, Laurent. Alors j'ai une anecdote sur Laurent, puisque on va passer un petit peu la parole à Anne. Laurent, alors moi j'avais vu un premier acteur avec qui j'avais fait quelques essais et qui était pas mal, mais c'était pas complètement ça. Et puis Anne, qui voulait produire, m'a dit « Mais si c'est pas complètement ça, tu peux passer l'acteur principal. » Donc en fait, un cours, tout est bâti sur le fait que l'acteur principal, tout ce que tu feras, tout ce que l'équipe va faire derrière, ah bah ça
servira
à rien.
C'est lui qui porte tout. Hein.
Si l'acteur n'est pas bien.
Et c'est le cadre, c'est lui qui gère, et si l'acteur principal tombe, tout tombe.
Tout tombe, ouais. Mais ça, le cours n'a plus d'intérêt.
Bah oui, tout à fait.
Et, puisque c'est lui qui transporte le truc émotionnel. Et en fait, Laurent, je l'avais déjà rencontré auparavant, on s'entendait vraiment bien. On avait fait des petites conneries un peu pour un film sur Laurent Tira, avec Laurent Tira. Et donc je le vois, je lui fais lire, il trouve ça super, il adore le côté western, le côté noir et blanc, il a vraiment envie de le faire, mais il est au théâtre, il est avec sa compagne, il a très peu de moments de vacances, et notre tournage tombe pendant ce moment de vacances, et il me dit « Non, ça va quand même être compliqué, parce que je peux pas lui faire ça, ma compagne et tout. Bon. » Et je lui dis à la fin, au bout d'une heure d'entretien, où il est ravi, il serait ravi de faire le problème, mais il ne peut pas, je lui dis « Est-ce que je peux quand même passer ton numéro à ma compagne qui produit parce que je pense qu'elle aimerait bien te parler. » Et il rigole, il me dit « Mais oui, mais bien sûr, tu peux lui passer mon numéro, mais qu'est-ce que tu crois que ça va changer quelque chose ?» Et je dis « Écoute, on va voir. » Et donc là, effectivement, elle l'a appelé, elle l'a eu, et au bout d'une heure, il a dit oui. Il a dit, en fait, il était mort de rire, elle a bourriné gentiment.
Et Anne, comment ça s'est passé?
J'ai fait ma relou.
C'est ça?
La non, personne non, mais, qui mais, veut non, absolument. Mais, non, mais en fait, si tu veux, il y avait ses contingences matérielles à lui, mais il a compris que... Bah, qu'on voulait que ce soit lui et personne d'autre, et qu'en fait on ferait tout pour que ce soit lui.
Il n'y aurait pas d'échappatoire, qu'il allait faire le film.
C'est ça. En fait, elle a chopé ce que tu disais un peu, c'est-à-dire il avait ce truc, tu m'as dit un peu Bourville,
oui.
En Melville.
Ouais. En fait, si tu veux, tu dis
là, un peu ambivalent.
Voilà, exactement. Il a jamais fait de rôle de méchant il a jamais fait de rôle de gentil, c'est ce que tu disais en préambule. Mais moi, je trouvais qu'il avait une ambiguïté.
Oui, il avait toujours cette ambiguïté. Ouais.
Où, tu sais, t'as l'impression que, ouais, c'est vraiment, il me faisait penser à Bourville, complètement.
Bourville, dans le cercle rouge.
Et en fait, le loup, c'est pas un mec très sympa à la base. Enfin, mm-hmm. C'est vraiment quelqu'un qui était un mec de pouvoir et qui avec les salariés,
Ouais.
Il était quand même contraignant, il était dur.
La grande distribution, c'est soit tu bouffes, soit t'es bouffé.
Voilà, c'était un milieu assez cruel.
Ouais.
Mais il est super attachant parce que tout d'un coup, quand il perd son poste, il perd sa position sociale, il perd son statut et tout ce qui a fait qu'il avait une existence vis-à-vis des autres.
Ouais. Ça, il ne le sait pas à ce moment-là, il a l'atout d'abord.
Non, mais ça, il ne le sait pas, mais quelque part,
c'est ça que ça raconte.
L'atout symbolise...
C'est comme ça qu'on l'interprète, en fait.
Cet atout, qui marque vraiment quelque chose. Et on sent aussi, à un moment donné, on le sent entouré de femmes.
Ouais.
Il est entouré de femmes.
C'est exactement
c'est fou
ça.
Parce qu'on voit le film d'hier, L'homme d'argile, qui est totalement pareil. Et on sent qu'il n'a pas de place, en fait, parmi ces femmes. Il n'arrive pas à se faire sa propre place.
Voilà.
Et cet atout, l'handicap, et en même temps, lui apporte quelque chose qui va être salvatrice.
Ouais.
Ouais.
Un questionnement à l'exemple. Je suis ravi que vous ayez vu ça dedans, parce que c'était vraiment le questionnement. C'est-à-dire qu'il avait trouvé sa place à travers son boulot. Et ça m'a fait, mais dans les références, un peu, il y avait un peu Kafka, la métamorphose.
Mmh,
c'est-à-dire que
oui.
Ça m'a frappé en le relisant. C'est le truc qu'on a lu au lycée et tout, mais après, en le relisant, il me disait, mais c'est vraiment sur l'histoire d'un type qui s'aperçoit qu'il n'a aucun rôle.
C'est ça.
Et c'est l'angoisse de finalement ne servir à rien.
Mais oui, parce que après, il finit son travail, il est à la retraite.
Ouais.
Donc là, il se retrouve complètement perdu.
Complètement, dans un univers de femmes.
Et quelque chose qui ne s'attend pas. Parce que même s'il y a du désir, il y a des choses avec sa femme, on le sent un peu perdu.
Oui, complètement, c'est exactement ça.
On le sent pas savoir ce qu'il doit faire, que ce soit avec sa fille aussi, qui prend une importance incroyable dans son ancien job, et qui lui, pour lui,
elle lui prend sa place. Et encore mieux parce que elle a l'air de monter encore plus haut.
Complètement.
Ouais. Et avec d'autres méthodes que les siennes.
C'est ça, oui, ouais. Pas les mêmes.
Ouais. Exactement. Et c'est-à-dire qu'il pourrait se raccrocher en se disant bon bah voilà, il y a la transmission, je sers encore à quelque chose. Mais même ça, quelque part, elle lui dit qu'elle en a pas besoin.
Mais c'est
qu'elle
ça.
A besoin de créer sa
je
son
me débrouille
chemin
toute seule.
Exactement. Et donc c'est pour amplifier le côté perte de repère en fait. Il faut qu'il reconstruise quelque chose.
Mais il est angoissé en fait à l'intérieur. Ouais, bah,
il est angoissé.
Il est complètement.
Il est dans un univers de femme et il a ça. Perdu son statut. De provider.
C'est ça.
Et en plus, il a toujours été par mon et par vous, donc il n'était pas là à présent. L'histoire qu'on ne voit pas forcément.
Oui, tout à fait.
Et puis après, c'est les libertés. Je pense que j'ai aussi projeté beaucoup de choses dessus. Et c'était avec Jean-Marie dont c'est l'histoire. Jean-Marie Vial, on le voit à la fin. C'était ce qui est difficile, comme il était quand même assez dominant. En tout cas, il se raconte comme dominant. Je trouve, je vois aussi d'autres qualités, hein, c'est pour ça que c'est un ami aussi. Et ben, c'était comment raconter son histoire sans être trop écrasé par lui, son envie. Et donc il y a eu une vraie discussion à un moment donné, parce qu'il me reprenait sur certains dialogues que je lui faisais lire. Il dit non, mais ça c'est pas ça, on parle pas comme ça et tout. Et c'est vrai que je lui ai dit, moi dans mon envie, il y avait une envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose artistiquement.
On lui a dit c'est pas une biographie en fait, c'est pas quelque chose, c'est pas un documentaire.
Oui.
Ouais.
C'est une fiction. Donc il faut que tu laisses vivre cet objet-là.
L'objet artistique et que en fait il sera entre guillemets réussi si on va jusqu'au bout. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais le fait d'aller jusqu'au bout ou pas fait que c'est une œuvre artistique ou pas, à mon sens. Et donc, si j'étais trop bridé, parce qu'on l'a un peu beaucoup fait, j'ai fait donc, un long métrage avant, coréen, c'est très bien passé, mais c'est avec un peu plus d'argent, un studio et tout ça, donc il y avait peut-être plus de pression. Et là, c'était vraiment l'envie, grâce à toi, sur lequel on s'est rejoint en tout cas, de faire quelque chose dont on serait responsable de tout en fait.
Et le curseur est encore plus posé sur le côté féminin? Puisque là, celle qui s'occupe du PH, qui est la fille du responsable, du haut responsable, qui lui est là, mais la chapote, mais n'est pas non plus à donner des directives ou autre, c'est elle en fait.
C'est vrai.
Et c'est elle qui se confronte encore à cet homme qui est déjà perdu entre trois femmes et qui va se retrouver en face d'elle, un mur qui ne veut pas le laisser passer. Quoi.
Voilà,
il va se faire
mes angoisses. Bon, ça, c'est la partie qui n'est pas complètement arrivée comme ça, en tout cas. Non, mais c'est un petit conflit générationnel. Plus qu'un conflit, c'est un problème de communication qui fait que. Bon, qu'on peut avoir un petit peu avec notre fils et qu'on se sent un petit peu dans la société, c'est que des fois il y a un
fossé entre nos générations, notre façon de voir les choses, que ce soit avec le portable, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit avec pas mal de choses. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment cet homme qui est perdu, elle qui est fixée sur ce fait que lui, il n'est pas net, qu'il est complètement sain détraqué, que ce qu'il va faire, c'est pas catholique, c'est un prédateur, puisque le loup de Tancarville. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé une image où on voit un loup avec ses petites dents là, la petite peluche.
C'était le doudou de mon fils.
Mais ça représente en fait, parce que on le voit comme ça et on voit en fait, c'est pour elle, c'est peut-être un loup, mais en fait, lui, c'est pas un loup, c'est un homme qui essaye de trouver
sa place.
Et qui est dans le genre plus agneau que loup, dans ce fait-là, en tout cas.
À ce moment-là.
À ce moment-là.
Et je pense que dans la réalité, c'est un peu le cas aussi. Mais
parce que lui, en fait, c'est la proie. C'est pas celui qui attaque complètement.
Ouais, c'est vrai. Ça vous dit tous les thèmes. C'est vrai de ce que j'avais voulu mettre. Je suis ravi. Je suis ravi. Ouais, je suis ravi. Je sais pas quoi dire de plus. C'est d'être un père aussi. Elle avait un petit peu. Alors, on a eu la chance de pouvoir tourner vraiment dans le centre de surveillance du pont.
Sur le pont,
c'est beau. C'est pas évident.
Les décors, ils sont
franchement impressionnants.
On a eu la chance d'avoir. Alors, on a entre guillemets deux chefs opérateurs. On a vraiment un opérateur qui est Seb Biget et on a Raphaël Dallaporta qui est un super photographe. et qui est notre ami, et donc du coup qui m'a aidé, qui a fait beaucoup de compositions, et ça l'excitait aussi pas mal le noir et blanc, parce qu'il a fait beaucoup de travail en noir et blanc, et du polarisant et tout ça, et de rendre ces cabines un peu étranges. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de passer du réel à une forme d'onirisme. Alors l'inquiétante étrangeté de Freud, c'est-à-dire comment dans le réel on peut basculer, pas une grosse bascule, mais avec nos petits moyens, comment
un rien peut faire basculer dans la vie.
Voilà. Et donc ces petites choses qui font changer la perception. Effectivement, et c'est peut-être pas le prédateur que peut-être lui imagine être aussi. En fait, c'est peut-être quelqu'un d'assez perdu qui vit peut-être dans beaucoup de peur qu'il n'osait pas reconnaître. Et peut-être que son attitude un peu d'alpha était une manière de dire non, j'ai pas peur. Alors qu'en fait, il a peur. Moi, ça, c'est ce que je.
Première projection ce soir à l'abbaye d'Alette-les-Bains avec un cadre magique, hein, on peut le dire. C'est fou.
Et il y a l'histoire. Je voulais rajouter un tout petit quelque chose. Il y a l'histoire du tournage et l'aventure qu'on a vécue. Parce que il y a eu l'histoire que racontait Jean-Marie, te racontait, et on s'est dit, on a envie de faire un western en Normandie. Mais après, en fait, on a réussi à agréger plein de gens hyper talentueux, avec plein d'envie autour de ce projet, et des gens de toute génération, de toute origine. C'est-à-dire qu'en fait, on a des acteurs professionnels, des acteurs non professionnels. On a le maire de Glos-sur-Risle qui joue le médecin. On a le fils de Jean-Marie Biel, Pierre Biel, qui joue un franchisé. À côté de ça, on a des acteurs professionnels, Céline, Jonas Dinal, Tania Gamarski. Et c'était génial. Les communes nous ont aidés, la Chambre de commerce et d'industrie nous a aidés.
C'était rock'n'roll et génial, c'était les deux.
C'était rock'n'roll parce qu'en fait, on avait aussi une équipe de prod, en prod exé, on travaillait avec des petits jeunes. Et en fait, c'était assez marrant parce que ils avaient des fois des réactions
générationnelles. On les a un peu sentis aussi au moment du tournage.
Il y a un moment donné, Laurent Bateau, il veut aider la chef caméra. Électro pour porter sa caméra. Puis tout d'un coup, il voit que vraiment, c'est genre la nana, il va se faire aboyer dessus, quoi. Que c'est vraiment old school comme attitude.
C'est impossible.
Oh, puis caisse des merdes avec son flacaisse. Mais on avait que des trucs un peu improbables, un peu marrants.
Puis j'avais mis un peu la barre dans le sens où, et tu m'as vraiment aidé, c'est-à-dire. Et on a eu, sur 5 jours de tournage, quasiment 10 lieux.
C'était
par demi-journée.
Monstrueux.
Donc on courait à chaque fois, surtout des lieux qui étaient donnés gratuitement. Mm-hmm. Donc des fois des hôtels, c'est des tout petits créneaux. Pas de chef déco. Donc on fait la déco nous-mêmes à l'arrache.
Et donc, mais on a eu des miracles quand même aussi,
à chaque fois.
Une liberté, c'est-à-dire qu'on a la contrainte de peu de moyens, peu de ressources. Mais on a une absolue liberté sur le propos, l'artistique, et c'est quand même assez extraordinaire.
Là, le miracle peut advenir, en fait, c'est ça qui est marrant. Parce que, du coup, c'était un peu du dérapage plus ou moins contrôlé. Et en fait, on a eu la chance sur le pont, d'un coup, le soleil qui arrive alors qu'il pleuvait juste avant. Et puis ça s'enclenche, et puis hop, on y va, on filme le truc. Puis moi, je voulais mon plan un peu à la 8h30. Et puis il fait hop. Et donc le chef, hop, je peux lui expliquer, mais je peux pas non plus trop. Donc il faut qu'il le comprenne aussi lui-même. Et il l'a compris, il a même fait mieux que ce que j'aurais imaginé. Et on a eu à chaque fois, sur beaucoup de galères, on a eu à chaque fois
une petite alchimie de dernière minute.
Une petite séquence entre lui et la médecin.
Oui.
Le lieu, en fait, on a sonné le matin, c'est chez un... Il est quoi, ostéo ?
Ostéopathe.
Et le matin, en fait, il avait une consultation, il nous aurait prévenu la veille, et en fait, on a sonné comme des bourrins, pas spécialement moi, mais... Et d'un coup, il est sorti comme un diable en boîte, on dit, vous êtes cru chez mamie, et donc il ne voulait plus nous filer le lieu, alors que c'était un tout petit lieu, enfin, c'était vraiment tout parti en sucette. Et au final, je trouve que c'est une des meilleures séquences, c'est une séquence assez intéressante, ça se joue très bien entre eux. Il y avait un peu une mutinerie dans l'équipe. Enfin, c'est marrant, en fait. C'est ça.
Ça donne quelque chose de différent et tout, qui n'était pas prévu à la base et qui a donné.
Les accidents qui finalement.
À l'écriture, c'est pas forcément une scène qu'on aurait pensé aussi forte à l'arrivée en termes d'image.
Oui.
La scène avec le médecin.
Ouais. Je pense que c'est eux qui ont. En fait, moi, comme ça allait mal, c'est compliqué avec les comédiens. Il faut pas trop rouspéter. On est trop stressé. Et là, c'était vraiment. J'étais un peu obligé d'être stressé parce que c'était compliqué. Et en fait, bizarrement, ils n'ont pas du tout pris pour eux. Ils ont très bien joué la scène. Et peut-être l'urgence a fait que c'était pas mal. Enfin, on adore l'accueil, l'énergie des gens, la curiosité et tout. C'est génial.
Ouais,
c'est une anecdote que j'aurais bien envie de raconter.
C'est quoi ?
C'était la chanson de fin du film.
Ah oui, l'oiseau.
L'oiseau, parce que.
C'est vrai, c'est pas commun de choisir cette chanson-là, quoi.
Alors c'est marrant parce que Anne, donc, c'était un peu en me voyant frustrée, tout ça. Et puis elle, je pense qu'elle a envie de passer à la prod aussi. Mais peut-être que de temps en temps, je me dis, je vais lui forcer la main, je sais pas si c'est vrai ou pas, tu lui répondras. Et en fait. On avait cette envie, moi ça me faisait un petit peu peur, je voulais faire avec zéro budget, finalement on avait quand même une grosse équipe, même si c'était des jeunes, pas d'argent, mais en fait beaucoup de gens à gérer. Et il y a un truc où d'un coup il y a comme un signe qui fait qu'on se dit, en fait je lui fais écouter cette chanson que j'ai trouvée incroyable, puis par rapport à ce que raconte le film.
C'était l'oiseau, c'est un serpent qui se prend pour un oiseau.
Ouais, mais je ne suis qu'un serpent, et voilà. Et en fait, je fais écouter ça et elle se m'a pleuré, moi aussi dans la voiture, et donc on s'est dit, bon.
Ça collait.
Il faut le faire en fait.
Ouais. Tous les signes étaient là.
Étaient ouverts pour justement cette.
Parce que c'est un peu un saut dans l'infini quand même de faire. Mmh. Un saut l'infini, un saut dans
En fait, ouais. Ouais. Et puis surtout, tu te dis, tu pourrais toujours faire mieux ou différemment, mais à un moment donné, il faut sauter le pas, quoi. C'est ça.
Ouais, mais ouais, il faut y aller, t'es pas prêt. J'étais dans un état stress 2 jours avant, je voulais plus le faire. On m'a dit, mais attends, tu peux pas faire ça.
Même pas en rêve, c'est vrai.
Ah, je me disais, c'est pas prêt, c'est n'importe quoi en fait. Je voulais qu'on prépare plus, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de lieux, qu'il y avait trop de. Enfin, d'un coup, il y a tous les problèmes qui arrivent dessus. Laurent, il était un peu stressé au départ aussi.
Ah oui.
Le costume,
j'ai vu le moment où il allait repartir lui aussi.
Les essais, il était deux fois trop grand, on a eu deux
tailles. Ah waouh! Non, on a eu vraiment, mais plein de tous les trucs.
En tout cas, merci de venir le présenter au Festival International du Film Insolite. Et merci pour l'interview.
Merci.
Ce film aussi, il montre aussi la violence qui peut exister, ces problèmes aussi de père-fille qui peuvent avoir lieu, et on le voit non seulement par rapport au loup, par rapport à sa fille qui va reprendre les rênes et voler le pouvoir à son père. C'est cette fille qui est là pour aider son papa au péage de Tancarville et qui se laisse pas dicter sa conduite et qui voit cet homme passer plusieurs fois et se pose plein de questions. Et on l'appelle Kung Fu Princesse, mais vous comprendrez pourquoi. En regardant le film, je ne vais pas tout vous dire, mais c'est vrai que voilà, c'est assez flou des fois. Il y a des choses, des images, le fait qu'il y a aussi un espace magique à un moment donné qui donne une autre vision de la vie, savoir quelle est la réalité ou le rêve, ou vraiment des choses qui peuvent se passer. Et c'est aussi de montrer comment on a sa place, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre métier aussi, où c'est vraiment important. Et cet homme qui part, qui laisse tout et qui se sent un peu mis de côté à ce problème qui apparaît, cette toux qui peut le tuer bientôt, d'un moment à l'autre, et Et donc, il essaye de comprendre des choses et il est très bien interprété par Laura Bateau. Donc, si vous avez l'occasion, lors d'un festival, de pouvoir voir ce film qui est assez... Qui est assez impressionnant sur son noir et blanc, sur son esthétique qui est assez prenant. Donc n'hésitez pas à découvrir Le Loup de Tancarville.
Les gens du coin ils me conseillent d'aller sur le pont d'aller sur le pont de Tancarville. Vous êtes genre
non. Vous dites les gens du coin, vous n'êtes pas du coin, vous ?
Si. Et vous savez, les gens ici, ils croient ce genre de choses.
Alors que vous ?
Ben moi ? Moi, je crois en rien. Ou en ce que je vois, et encore.
Donc, l'amour, vous n'y croyez pas ? De quoi avez-vous peur ?
De rien.
De rien ou du rien ?
Je sais pas.
C'était Chaud Devant, Festival International du film insolite de Rennes-le-Château, avec Le Loup dans Tancarville. Merci beaucoup à Anne Gourdon et merci à François, Régis, Jeanne et Anne Gourdon pour l'interview. Merci au Festival International du film insolite de Rennes-le-Château pour avoir sélectionné Le Loup de Tancarville. It's always tease, tease, tease. You'll have-